C'est Christine Cossette au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Croire d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, nous continuons aujourd'hui notre réflexion sur l'espérance avec Mme Hélène Champagne. Je vous rappelle que Mme Champagne est professeure à l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal et qu'elle est aussi laïque dominicaine. Aujourd'hui, nous parlerons de l'espérance chrétienne, ce qui la distingue de l'espérance quotidienne ou religieuse, ce qui lui donne sa couleur propre. Nous verrons comment dans nos expériences de noirceur, de malheur, d'impuissance, l'espérance peut ouvrir un horizon nouveau. C'est donc avec plaisir que nous accueillons pour une deuxième semaine Madame Hélène Champagne. Madame Hélène Champagne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de nouveau de venir à notre émission.
Avec plaisir.
Alors, la semaine passée, Hélène, nous avons amorcé une réflexion sur l'espérance. D'abord, sur l'espérance comme paradoxe.
L'espérance comme un paradoxe, d'abord parce que ce n'est pas naturel. Ça semble difficile d'espérer. Puis en même temps, on voit des traces, on voit des signes d'espérance qui nous entoure, des jeunes qui s'engagent, de l'aide humanitaire un peu partout, des publicités qui affichent espérance, des nouvelles, des journalistes qui utilisent l'expression aussi pour nous aider à passer au travers les moments difficiles.
Nous avons également parlé de la manière dont s'était développée la réflexion sur l'espérance avant 1960. Là.
Nous avons parlé aussi de l'espérance de quelques définitions.
Oui, oui, oui.
D'abord, le sentiment qui nous fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. On a parlé aussi de l'espérance comme d'une réalité inscrite dans le temps, enracinée dans le passé, que nous vivons au présent et ouverte sur l'avenir. Et nous avons parlé de l'espérance comme d'une attitude possible face à la souffrance. Donc, la souffrance et l'espérance sont en quelque sorte liées d'une certaine manière.
Oui. Au 20e siècle, là, et particulièrement dans les années qui ont précédé le Concile Vatican II, là, les théologiens ont senti le besoin donc de questionner la vision chrétienne de l'espérance.
On avait déjà une vision bien développée au sujet des vertus, par exemple, qui datait déjà des premiers siècles, on pourrait dire, qui s'inspirait de la philosophie grecque, les trois vertus théologales qu'on appelle, on en a parlé la semaine dernière, donc espérance, amour et foi. On a parlé de l'espérance qui était vue pendant très longtemps comme qui envisageait ce qu'on appelle les fins dernières. Hein? Oui. Certains vont reconnaître l'expression, donc la fin du monde. Qu'est-ce qu'il va y avoir après?
Ce qu'on appelle la dimension eschatologique.
Exactement. Et aussi, on a questionné la semaine dernière, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous aujourd'hui? Et on s'est interrogé sur notre désir le plus profond. Qu'est-ce que pour nous, qu'est-ce qui nous habite comme soif le plus vrai, la plus authentique de notre être, et notre être non seulement individuel, mais faisant partie d'une famille humaine, si vous voulez, d'une collectivité. Donc, nous ne sommes pas seulement des individus. Au fond, toute la vie spirituelle, et je pense que c'est un grand virage qu'on a vécu dans la vie spirituelle au 20e siècle, ce n'est pas juste une question de se développer soi-même pour devenir meilleur ou pour chercher à devenir un saint. La vie spirituelle, elle nous invite, elle nous interpelle à être en étroite relation avec notre entourage, nos proches, mais aussi des gens qu'on connaît peut-être moins, en relation avec les personnes, en relation avec Dieu, en relation avec notre environnement. On est interpellé par la nature, l'écologie, donc d'être des êtres de relation, c'est la vie spirituelle. L'espérance s'inscrit là-dedans, non pas comme une vertu à développer en solitaire, quoi qu'il arrive, j'espère. Non. Mais avec réalisme, de vivre cette espérance avec des mains, des gestes concrets, des actions concrètes, en solidarité.
Et cette prise de conscience-là prend appui, on l'a vu aussi la semaine passée, sur cette nouvelle recherche du Jésus historique. On a donc de nouveaux appuis bibliques, nouveaux, pas nouveaux finalement, parce que c'est bien ancien tout ça, mais on a pris conscience que de la dimension humaine humaine hein, de Jésus de Nazareth.
Absolument. Donc, dans les décennies, la période qui a précédé le Concile Vatican II, on s'est retrouvé avec des prises de conscience, mais aussi des nouvelles prises de conscience. Je m'en allais dire des nouvelles idées. C'est peut-être un peu fort, mm-hmm. mais des nouveaux courants. Hein, de réflexion qui se sont croisés, qui ont porté fruit ensemble, dont celui justement de la prise de conscience du Jésus historique. Mm-hmm. On a parlé du fait que Jésus était plutôt perçu dans sa dimension Christ, fils mm-hmm. de Dieu, hein, un peu au-delà de nous tous. Hein,
Dieu tout-puissant.
On n'était pas à mm-hmm. sa hauteur, mm-hmm. finalement. Mm-hmm. Et là, on redécouvre un Jésus historique qui mange, qui boit, qui parle, qui marche, mm-hmm. qui est avec les gens, qui pleure, qui rit probablement aussi,
oui,
hein, bien sûr. Hein? Et donc, ce Jésus historique prend de l'ampleur et nous fait réaliser dans notre vie de chrétien, dans notre compréhension de qui nous sommes comme humains, que cette vie-là, elle a de la valeur, elle a mm-hmm. de la dignité. Hein? Et c'est important d'en tenir compte. L'espérance ne peut pas être une fuite du monde.
Mm-hmm. Nous en étions là au Concile Vatican II.
Alors, se tient dans les années, au début des années 60, ce mm-hmm. grand rassemblement d'évêques, de cardinaux. Si vous allez chercher sur les moteurs de recherche Internet, vous pouvez voir des photos, des scènes de ce rassemblement immense,
oui, hein,
mm-hmm. avec des milliers de personnes en réflexion ensemble, des théologiens, des gens qui vont penser les questions pastorales, qui vont renouveler finalement de fond en comble, qui vont faire le ménage est peut-être un peu fort, mais finalement retourner aux sources,
oui. hein,
qui vont vouloir que l'Église puisse à la fois retourner à sa source et aussi mieux tenir compte de la réalité contemporaine.
Oui, et donc qu'est-ce que le Concile Vatican II apporte de nouveau là, au chapitre de l'espérance?
Justement, ces nouvelles orientations qui nous font voir l'espérance, non seulement comme portée vers l'au-delà, mais qui concernent le présent, qui concernent nos engagements sociaux, qui concernent notre façon d'incarner, de vivre notre vie humaine, ça va être endossé pleinement. Le fait que ce qui concerne notre vie ecclésiale, notre vie d'église, ce n'est pas seulement justement ces fins dernières ou quelque chose ailleurs, hors du monde, mm-hmm. mais bien ce qui se passe dans notre monde. Et on a des textes qui ont été écrits, hein, donc ce qui nous reste de façon concrète, donc des documents qui nous restent du Concile Vatican II, l'un d'entre eux et qui porte, ça s'appelle l'Église et le monde de notre temps,
oui. hein,
a aussi un titre latin, comme oui, tous oui. ces documents. Mm-hmm. Et justement, son titre latin, excusez mon accent, hein, mm-hmm. Gaudium et Spes,
oui.
donc la joie et l'espérance.
Ah, oui.
Donc, le texte qui nous parle de l'Église et du monde d'aujourd'hui, les premiers mots, hein, et ces premiers mots seront le titre latin, ces premiers mots sont la joie et les espoirs. Les mm-hmm. joies et les espoirs.
Oui.
Permettez-moi de vous lire l'extrait.
Oui, bien sûr.
Alors, le document ouvre avec ce passage. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Mmh. On a, je dirais, radicalement changé d'orientation dans le sens où on avait un peu perdu de vue hein, cette réalité de l'aujourd'hui
oui.
et de l'importance de la vie humaine, de notre humanité. Hein. Et dans le fond, Dieu et tout le judéo-christianisme parle de ça, s'inscrit dans notre histoire. Mm. C'est le Dieu de l'histoire, c'est le Dieu de notre temps, c'est un Dieu qui s'est fait tellement aimant, tellement proche de nous, qu'il s'est fait l'un de nous. C'est notre grand énoncé de foi.
Oui.
Alors, c'est dire combien l'humain a d'importance aux yeux de Dieu.
Oui.
Et comment nous avons de l'importance et il nous est proposé hein, de prendre conscience, de réaliser cette importance que nous avons les uns pour les autres.
Hein? Et donc, ça vient colorer là, notre façon de voir l'espérance.
Ça vient colorer notre façon de voir l'espérance. Ça vient colorer notre façon d'espérer. Parce que l'espérer ne peut plus être une fuite. On en a parlé déjà.
C'est ça.
Hein? Et là, je suis aux prises avec le concret de situations dont je ne suis pas sûre de l'issue, dont je ne sais pas. Finalement, hein, je n'ai pas les moyens de voir l'avenir, de voir si effectivement elles vont se dénouer, elles vont aller vers le meilleur, mais je suis appelée à espérer solidairement, en aimant et avec la foi, donc les trois se tiennent encore.
Mm-hmm. Donc, si je vous comprends bien, être chrétien, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas fuir la réalité. Au contraire, hein, c'est de prendre son destin en main.
C'est de prendre son destin en main, d'être à la fois proche du réel, mm-hmm. puis en même temps ouvert sur un possible que je n'entrevois pas. J'entends souvent des gens qui me disent « si j'avais pas la foi hein, », des personnes âgées parfois,
oui,
ou
oui.
des croyants qui disent « si j'avais pas la foi, comment je pourrais passer au travers mm-hmm. hein? ?» Il y a ce soutien qu'on pourrait dire parce qu'on se sait aimé,
mm-hmm.
hein, qui vient d'une relation, hein, et qui est bien différent d'un visage de Dieu Tout-Puissant qui arrangerait les choses comme un marionnettiste par en haut.
Mm-hmm.
Hein? Okay. Mais quand Dieu se fait aimant, quand Dieu se fait proche, hein, et on y reviendra tout à l'heure, on se trouve confronté avec la réalité que ce Dieu-là, ben, il est mort sur la croix.
Oui, il a souffert comme un homme.
Oui. Mm-hmm. Alors, ça va nous faire réfléchir les choses peut-être autrement. L'espérance prend des colorations particulières à ce moment-là. On ne fait pas juste un acte de futurologie, on mm-hmm. y reviendra.
Oui.
Hein, mais il y a quelque chose de particulier qui s'inscrit là-dedans. Pour vous en parler, j'aurais le goût de vous faire entendre le chant de Jacques Brel, « Voir un ami pleurer ».
Oui, et pourquoi avoir choisi cette chanson-là?
C'est quelqu'un qui m'est cher qui m'a fait entendre cette chanson-là la première fois. Et j'ai trouvé ça tellement vrai.
Mm-hmm.
Et je crois que ça fait écho justement à ce qu'on est en train de se dire. Il y a des événements, des situations, des histoires de vie difficiles, douloureuses, et on ne peut pas ne pas les voir. Et puis en même temps, la façon dont Jacques Brel les propose, il le fait presque avec passion. On sent que ça le rejoint, ça lui rejoint le cœur. Et quand il arrive avec ce refrain « Voir un ami pleurer », on dirait que ça remet tout en dessus-dessous. Parce que ça aussi, il le dit avec le cœur. Voir un ami pleurer, ça nous rejoint dans l'amour, ça nous rejoint dans cette solidarité, cette proximité, cette intimité peut-être. Et ça même, cette relation même, nous fait voir un au-delà de cette misère finalement qu'il décrit.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout, le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider et nos nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés. La vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie d'Hélène Champagne, professeure à l'Institut de pastorale des Dominicains de Montréal. Vous soulignez, Hélène, dans vos cours à l'Institut de pastorale, que comme chrétiens, nous sommes invités à nous rendre solidaires de nos frères et de nos sœurs humains qui souffrent. Alors, quel lien faites-vous entre solidarité dans la souffrance et espérance?
On vient d'entendre cette belle chanson de Jacques Brel.
Oui. Hein?
Comment ne pas voir cet ami qui pleure? Hein? Comment passer à côté sans s'y rendre compatissant, sans s'y rendre proche? Hein? Il me semble que l'espérance est en lien avec cette compassion d'une certaine manière. Comment on peut être attentif au malheur de l'autre en même temps que non pas sombrer avec l'autre, bien sûr, hein? Et en même temps... parce que si on passe tout droit, si on ne voit pas, si on n'est pas compatissant, de quelle espérance parlerait-on? Hein? Mm-hmm. On a parlé du lien étroit entre la souffrance et l'espérance, entre la douleur et l'espérance. J'aurais le goût de vous dire, finalement, l'espérance n'est pas réservée aux chrétiens.
Mm-hmm. Ben non, hein, évidemment.
Mm-hmm. Hein? On peut... Il y a des gens, on a parlé tout à l'heure de ceux qui disent « si je ne croyais pas en Dieu... » comment j'espérerais, comment je pourrais espérer. Mm-hmm. Mais il y a effectivement des gens qui espèrent, pas de la même façon, mais qui ne perdent pas courage, qui ne baissent pas les bras et qui ne pourraient pas dire en toute conscience qu'ils croient en Dieu. Mm-hmm. Hein? Eux-mêmes se diraient autrement. Oui. Donc, on ne peut pas dire à leur place qu'ils croient en Dieu. Ça ne serait pas leur langage.
Non, mais ils vont puiser leur espérance... Dans d'autres réalités, des personnes, parfois...
Ils peuvent avoir des gestes humanitaires eux-mêmes, oui. Ils peuvent être solidaires, ils peuvent être engagés dans de l'entraide, à bâtir quelque chose de meilleur. Hein. On parle de cette expression, bâtir le royaume, bâtir un monde meilleur. Mm-hmm. Leur façon d'exprimer leur espérance, c'est de se retrousser les manches, hein, de mettre les mains à la pâte, de le faire solidairement. Mm-hmm. Donc... cette espérance, il me semble, est liée à la compassion. Elle nous engage. Et l'espérance, il me semble, elle est liée à la solidarité, mais il me semble qu'elle nous appelle à la solidarité.
Ah oui. Et donc, en ce sens-là, le chrétien doit, de façon impérative, je dirais, se sentir appelé.
Pour dire une expression qu'on entend parfois, c'est un must. Excusez-le.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement.
Hein? C'est un must. Oui, oui. Comme chrétien, ça n'aurait pas de sens de ne pas nous laisser interpeller, de ne pas nous engager socialement, communautairement, interpersonnellement, je m'en allais dire, solidairement surtout, oui. Hein, avec les autres.
Est-ce que c'est ce qu'on entend parfois par théologie politique?
Absolument.
C'est ça, hein?
Théologie politique, théologie sociale, probablement aussi. Oui. Hein? Uh-huh. L'engagement social de l'Église, toute la pastorale sociale aussi. Donc, il y a tout un discours développé là-dessus qui est peu connu, malheureusement.
Oui.
Et qu'on a l'impression qu'il est un peu au rencard.
Oui, c'est juste.
Mais c'est aussi important, finalement, que les autres questions théologiques et ecclésiales.
En même temps, l'espérance religieuse, vous le disiez la semaine dernière, nous fait prendre conscience que tout ne dépend pas de nous, hein, que même l'espérance prend sa source dans ce qui nous dépasse infiniment, c'est-à-dire Dieu.
Hein. Si, à la radio, c'est difficile, mais si vous pouvez vous représenter un petit tableau, j'aurais le goût de vous proposer un schéma.
Oui, oui.
Alors, vous imaginez en haut à gauche, pour les visuels, disons,
oui.
Hein,
uh-huh.
La confiance en soi, compter
oui.
sur soi.
Mm-hmm.
Hein, donc, espérer aussi en son potentiel, hein, ses capacités personnelles, son développement, hein, tout ça. Et dans le coin supérieur droit, en haut, hein, Dieu. On ne compte que sur Dieu. Dieu peut tout, Dieu va tout régler, Dieu va tout faire. Hein? Et entre ces deux extrémités, disons, moi j'inviterais à faire des ponts.
Ah oui.
On a besoin d'agir, on a besoin de se retrousser les manches, on a besoin de participer, hein, au devenir meilleur, à la fois de sa propre personne, mais de la communauté humaine. Mais on se rend bien compte qu'on ne peut pas tout.
Ah.
On se rend bien compte, à un moment donné ou l'autre, qu'on frappe un mur. On ressent l'impuissance, on vit l'échec, on se retrouve confronté à la mort, à une souffrance qui ne peut pas être diminuée d'aucune manière.
Mm-hmm.
Hein? On voudrait bien l'éviter, la souffrance. J'ai tout à coup à l'esprit toutes ces réflexions, ces discours et parfois ces sourdes oreilles au sujet de l'euthanasie, de tout ça. Mm-hmm. On devient intolérant à la souffrance. Ça fait mal, la souffrance,
Mais
que
oui.
voulez-vous?
Oui, oui.
Hein? Mais en même temps, pour garder en vue la dignité de la personne humaine, hein, on se retrouve confronté à ces situations extrêmes. Donc, je veux être proche des gens, je me retrouve face à des limites, je compte sur Dieu. Alors, on avait parlé de
oui.
ce schéma
uh-huh.
hein, que
uh-huh.
je
uh-huh.
vous parlais.
Uh-huh.
Donc, uh-huh. à droite, je compte sur Dieu aussi. On est ensemble, on est comme partenaire de Dieu, collaborateur de Dieu dans le champ de Dieu, hein, disait saint Paul.
Uh-huh.
Et l'autre balancier qui a pu exister, par exemple, au 19e siècle, c'est de ne compter que sur Dieu.
Oui.
De dire, bon, ben, j'ai pas à m'inquiéter, Dieu va tout faire, Dieu va tout régler, tout est entre les mains de Dieu. On a appelé ce courant le quiétisme.
Mm-hmm.
Il est probablement plus rare aujourd'hui, bien que possible encore. On est toujours dans un mouvement de balancier. Hein? Mais comment tenir les deux ensemble?
Oui.
De faire sa part, puis en même temps de se dire qu'ultimement, hein, ben, ultimement, c'est pas moi qui ai le dernier mot. Je trouve que pour dire cela, on a des moyens très beaux dans notre tradition chrétienne, et entre autres, c'est la prière. Hein? Et dans ces textes de prière, la prière n'est pas un texte, elle est un dialogue, elle est une rencontre, un
mm-hmm.
cœur à cœur.
Mm-hmm.
Mais on a aussi toute une tradition de textes qui nous aident, de poèmes qui nous aident dans cette prière, dans cette rencontre de Dieu.
Est-ce que vous en avez en tête particulièrement ou...
Ben, je pense aux psaumes.
Oui.
Je
uh-huh.
pense au livre des Lamentations.
Oui.
Je pense aux prophètes.
Mm-hmm.
Hein? J'ai eu la chance de travailler pendant quelques années dans le monde de la santé. J'ai rencontré des gens qui étaient familiers avec certains psaumes et qui étaient capables de dire certains versets par cœur.
Hein? Ah oui.
On en connaît quelques-uns, nous aussi.
Oui,
hein?
Oui.
Seigneur, viens à mon aide.
Oui, et qui aide. Hein?
Qui nous soutient.
À garder cette espérance.
Qui nous aide à rester en lien avec Dieu, qui nous aide à tenir bon. Hein?
Mm-hmm.
Hein? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné?
Mm-hmm.
C'est à la fois un cri, c'est à la fois... quelque chose de tragique comme phrase, mais à la fois une espérance. Je m'adresse à Dieu,
mm-hmm.
hein, à ce Dieu en qui je mets ma confiance.
Mm-hmm.
Les prophètes sont des personnages, je m'en allais dire, qui nous parlent d'espérance. Quand on prend le temps de les lire et de les découvrir, ils dénoncent. Les prophètes parlent fort.
Mm-hmm.
Ils disent les injustices haut et fort. Ils n'ont pas peur, hein, des débats politiques et puis des manigances, des magouilles, hein, et mm-hmm. parfois ils vont y aller au risque de leur vie,
mm-hmm.
mais ils vont dénoncer haut et fort les injustices. Et en même temps, ils peuvent être extrêmement durs contre les dirigeants, mais ceux qui mènent ces injustices. Hein? Et en même temps, ils peuvent être avec des paroles de consolation d'une immense beauté pour les gens qui sont dans la peine. Je pense à Isaïe, que j'aime beaucoup. Hein? On traverserait la mer, on traverserait le feu, on traverserait... Dieu est avec nous, Dieu est proche de nous, Dieu nous aime comme une mère aime ses enfants. Ses entrailles frémissent, ses entrailles sont affectées. Hein? On voit déjà ces images qui nous disent la tendresse de Dieu et sa proximité avec l'humain qui ne reste pas indifférent à la souffrance humaine. Ça seulement, il me semble, est une parole d'espérance.
Oui, c'est ça. On voit cette parole d'espérance un peu partout là, dans l'Ancien Testament. Et puis ensuite, vous dites que il y a, oui, cette histoire du peuple d'Israël, et puis il y a la venue du Christ aussi, hein, qui est comprise comme la réalisation d'une promesse d'un monde meilleur. Hein.
Et comment on comprend ça? Ça m'intrigue aussi. Mes étudiants me posaient la question.
Oui, voilà.
On dit, voici, le Christ est arrivé, c'est lui notre salut, des phrases qu'on connaît.
Oui, un peu creuses parfois, quand on ne les comprend pas et quand on les réentend, justement sans trop en comprendre le sens. Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Mais c'est une question qu'il faut aller petit pas par petit pas, il me semble.
Oui,
J'aurais le goût de retourner en arrière un petit peu, si vous permettez.
Oui,
on y arrive. On n'oublie pas que, ultimement, la formulation, c'est vraiment de dire « Christ est notre espérance ».
Oui.
Mais c'est quelque chose, dire ça. Mm-hmm. Mais il y a comme tout un cheminement qui nous fait aboutir à cette affirmation-là. On a dit que notre espérance, elle se vit en relation avec Dieu.
Mm-hmm.
On a dit que dans notre tradition judéo-chrétienne, est-ce qu'on en a parlé suffisamment? Pas encore, il me semble. Notre Dieu est le Dieu de l'histoire.
Oui.
C'est le Dieu de la promesse. Hein? Mm-hmm. Et là, dès le début de l'histoire, et on pourrait dire même au niveau de ceux qui travaillent les textes de façon exégétique, hein, même dans les écrits les plus anciens, qui ne veut pas dire le premier livre de l'Ancien Testament, du Premier Testament, dans les textes les plus anciens, cette promesse de Dieu, qu'est-ce que c'est? Hein? On parle d'une terre.
Oui, oui.
On parle d'un monde où il va y avoir du lait, du miel, qu'il va y avoir de la paix, où est-ce qu'il va y avoir la justice, où les gens vont pouvoir vivre en paix ensemble, heureux. Hein? Donc, on est dans une promesse, je m'en allais dire, presque humaine.
Oui.
Dans le sens qu'elle répond à des aspirations concrètes, profondes, terrestre, je m'en allais dire, mais d'une vie harmonieuse, d'une vie saine, d'une vie de relations épanouissantes. On est un Dieu qui nous promet que notre cheminement, Dieu nous promet ce possible, cette réalisation d'une promesse. Et là, la Bible va le présenter de plusieurs manières. Il y a une façon de le dire, ça va être la Jérusalem céleste.
Ah oui, c'est une belle expression.
Ce n'est pas nécessairement fondé au niveau du vocabulaire, mais certains ont fait le lien entre le mot Jérusalem et le mot Shalom.
Ah,
ce n'est pas tout à fait juste, mais c'est agréable de se rappeler que ce sera la ville de la paix. Symboliquement, on parle de ce milieu où de cette terre où la paix va régner, où Dieu accomplit sa promesse. Mais il y a quelque chose de particulier dans notre espérance chrétienne. Ce qui arrive avec Jésus, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est quelque chose qui dépasse ce qu'on pouvait imaginer.
Ouais, parce qu'en fait, on attendait un Messie, mais un Messie à la manière de David, un Messie, je dirais, plus politique. Là.
Oui.
Donc, on n'a pas eu ce qu'on
pas
attendait.
Pas du tout. On attendait quelqu'un qui viendrait rétablir le règne, une organisation politique plus autonome, ou est-ce qu'on ne serait plus sous l'Empire des Romains?
C'est ça.
Ou est-ce que le peuple pourrait régir, pourrait fonctionner avec ses propres lois, ses propres façons de faire?
On serait enfin chez soi, en paix.
Voilà, de façon très, très concrète, encore une fois.
Et
là... on rencontre cet homme, Jésus, qui vient apporter une certaine libération, un certain bien-être. Il guérit, il est thaumaturge. Il a une parole qui libère.
Oui.
Quand il parle, les gens sentent qu'il a quelque chose à dire qui les transforme. Et tout ça a l'apparence d'un échec. Il y a quelque chose d'étonnant dans l'espérance chrétienne en ce que cette espérance-là, on attend une terre, on attend une réalisation, on a quelqu'un. Et ce quelqu'un-là n'est pas le maître politique qu'on attendait.
Et on a même dit, je pense, dans le texte des disciples d'Emmaüs, et nous qui croyons qu'il était le Messie.
Mais oui,
donc,
mais oui.
C'est une déception de la part des disciples.
Une déception radicale. C'est l'échec. On se retrouve devant rien. On avait mis notre espoir en lui, notre espérance en lui.
Oui.
Et là, c'est la croix. La croix, on ne réalise pas toujours, d'autres en parleront ou en ont parlé.
Oui.
Ce n'est pas seulement... On la voyait dans les maisons, partout, on la voit dans nos églises.
Oui.
C'était intolérable
à l'époque.
Voir une croix.
Oui, oui.
C'était
un scandale.
Par excellence, c'était une indignité, une honte. C'était effrayant. Et les gens qui vivaient ce supplice étaient hors de la ville pour ne pas être vus. C'était le summum d'être rejeté complètement. Et là, on se retrouve avec une promesse, un Dieu qui nous promet, et on pense que cette promesse se réalise, et on se retrouve devant l'échec. Finalement, tout a l'air fini.
Oui, oui.
On est devant le terminal. Il n'y a plus rien à espérer. L'espérance chrétienne passe par le mystère pascal. Elle passe justement par ce chemin qui nous mène vers ce qui nous semble un cul-de-sac, et pas à côté. On a l'impression que ça nous mène directement au tombeau. Et là, les mots nous manquent pour dire le passage, parce qu'il y a à la fois une continuité puis une nouveauté. Il y a à la fois quelque chose qui est même et quelque chose qui est radicalement autre. Jésus-Christ, c'est Jésus, c'est le même. Et en même temps, Christ ressuscité, on ne peut pas expliquer précisément, matériellement, techniquement, qu'est-ce qui s'est passé au juste, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il était, est-ce qu'il était vraiment de chair, est-ce qu'il mangeait vraiment, on ne le sait pas. Mais il y a une expérience profonde, radicale, qui s'est vécue par ses disciples. Les mots pour le dire sont toujours imparfaits. Les évangiles cherchent à le raconter. Et là, ce qu'on entend par les disciples d'Emmaüs, par Pierre, Jacques, Jean, par les 12, et tous les textes qui nous racontent la rencontre de Jésus, Marie-Madeleine, on est devant ce rien, et tout à coup, quelque chose les habite. Ils disent avoir rencontré Jésus vivant, et là, ils se mettent à parler, ils se mettent à agir, ils deviennent autres, ils deviennent pleins d'espérance, ils deviennent pleins d'enthousiasme, mais d'un enthousiasme actif. Et ils deviennent pleins de foi aussi, et on dirait que l'expérience qu'ils ont vécue avec ce Jésus prend sens, donne sens autrement à leur vie, et ils réalisent finalement les liens avec l'Ancien Testament, avec leur tradition juive. Ils font des liens avec des gens qui ne partageaient pas cette tradition, qui sont païens, mais qui eux aussi découvrent la nouveauté dans leur vie, et non seulement cette nouveauté, mais cet éclat de sens. Il y a quelque chose de cette transformation.
Au fond, ils refont leur espérance. Ils reconstruisent leur espérance sur une présence.
Elle se reconstruit, ils y participent, mais il me semble que là, le don est radical.
Ah oui.
Ce n'est pas eux qui se font cette espérance-là. Ils ne se la construisent pas parce qu'elle les dépasse radicalement. Elle est radicalement un don. Et là... Encore là, les mots nous manquent pour dire on ne peut pas couper les cheveux en quatre, on ne peut pas dire qui l'aurait, qui ne l'aurait pas. Non, les dons de Dieu sont abondants, Dieu est généreux, il ne calcule pas finalement, c'est donné pleinement, à pleine brassée si vous voulez.
Oui, et d'ailleurs ce don-là a été tellement fort que l'histoire a basculé.
L'histoire a basculé.
Oui. C'est ça qui est extraordinaire.
Et ça continue au présent, je vous dirais. Cette réalisation-là, elle est au présent. Ce qu'ils annoncent, ce qu'ils découvrent, c'est que sous les apparences d'un échec radical, leur expérience profonde, c'est que la mort est vaincue.
Ouais.
Ce qui semble sans issue s'ouvre, il y a un horizon neuf. Jésus, qui est Christ, est vivant. Et ça, personne n'aurait pu l'imaginer. Mais ce que ça signifie, c'est que l'horizon fermé de nos vies, de nos expériences de pauvreté, de misère, de souffrance, s'ouvre. Parce que Dieu est plus grand et Dieu se fait proche de nous comme comme humain, comme homme.
Oui, oui. Vous avez choisi de nous faire entendre un texte de l'Apocalypse, qui est un livre qui n'est pas toujours bien compris du reste. Hein? Alors, pourquoi utiliser ce texte-là pour parler d'espérance?
C'est un texte que j'aime beaucoup.
Ah, oui.
Beaucoup. C'est un texte qui m'est arrivé à l'occasion, quand c'était approprié, d'utiliser dans le milieu de la santé, quand j'ai rencontré des gens qui pouvaient y être sensibles. Hein. C'est un texte qui me parle justement de cette nouveauté. C'est un texte qui me parle de cette tendresse de Dieu, de cette proximité de Dieu, hein, de cette intimité finalement, et d'une intimité qui nous fait dépasser notre expérience immédiate du cul-de-sac ou de la noirceur ou de l'impuissance ou de notre malheur. C'est un texte d'espérance par excellence, non pas de fuite, parce qu'on est encore inscrit dans ce mystère pascal qui passe par la mort. Hein? Ultimement, nous allons tous mourir. Ultimement, nous savons que nous avons chacun notre part de souffrance. Et Dieu n'est pas venu l'enlever. Il est venu nous donner peut-être cette espérance. Il est venu nous dire son amour. Hein? Et c'est ce que ce texte me dit.
Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. »
Alors, Hélène Champagne, cette lecture du texte de l'Apocalypse nous plonge vraiment, là, me semble-t-il, dans ce qu'on entend par dimension chrétienne de l'espérance.
En fait, le texte, vous le savez peut-être, a été écrit justement pour donner espérance,
oui,
aux premiers chrétiens, mm-hmm, qui vivaient des temps difficiles, de l'oppression, des condamnations, des premières condamnations à mort. Hein? Donc,
oui,
ils étaient...
alors qu'on pense parfois que le texte de l'Apocalypse est un texte qui parle de la fin du monde. C'est pas d'abord ça, c'est d'abord un texte d'espérance. C'est ça.
À quelque part, leur expérience ressemblait à la fin du monde.
Oui.
Dans le sens où tout allait tellement mal, mm-hmm, hein, avec l'empereur, avec la politique qui était celle qu'ils connaissaient, ils avaient bien l'impression, un peu comme nous quand on vit des cataclysmes ou des situations atroces, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est un texte d'espérance. Comment Dieu se rend présent à ça? Hein, qu'est-ce qu'on peut espérer pour après? Non pas pour fuir, mais pour passer au travers, pour nous aider à passer au travers. Et pour tenir bon dans cette foi, dans cette affirmation que Dieu nous aime.
Mm-hmm.
Que Dieu, quand on vit des situations de souffrance, on est tenté de se dire, bon, est-ce que c'est une punition? Est-ce que, hein, et encore récemment dans les médias, hein, c'est l'argument qu'on va utiliser pour expliquer les cataclysmes. Il y en était question par des hommes politiques dans les dernières situations environnementales qu'on a entendues. Donc, non, est-ce qu'on est capable de se dire que ce n'est pas une punition de Dieu, que Dieu n'est pas un Dieu vengeur, de tenir bon dans cette affirmation, un peu comme Job, hein, qui dit « Non, je n'ai pas mérité ces malheurs, hein, je ne peux pas concevoir que de si grands malheurs m'arrivent parce que j'aurais fait tellement mal que tout ça me tombe dessus parce que Dieu veut faire en sorte que je paye ma dette.
Mm-hmm. »
Non, Dieu, ce n'est pas en ce Dieu-là que je crois.
Ouais, ouais. Ça, au fond, ça, c'est pas chrétien
que de
croire que Dieu serait la cause de tout
ça. Que Dieu enverrait tout ça pour nous apprendre une fois pour toutes, là. Non,
mm-hmm,
ce n'est pas en ce Dieu-là que nous croyons.
Mm-hmm.
L'espérance chrétienne, c'était votre question, hein.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle nous vient comme quelque chose d'inattendu. Tout à l'heure, on parlait d'espérance, ou dans l'émission précédente aussi, on parlait d'espérance, mais on l'envisageait peut-être, hein, si on peut entrevoir la réalisation possible de ce que nous désirons, c'est donc quelque chose qu'on peut anticiper.
Oui.
Hein? Pour utiliser la phrase avec un peu d'humour, nous connaissons peut-être le journaliste Bernard de Rome.
Mm-hmm,
hein?
Mm-hmm.
Alors, si la tendance se maintient,
oui,
hein,
oui.
Nous aurons les résultats des élections.
C'est
alors, incessamment, les résultats nous diront ce que nous attendons, finalement.
Mm-hmm. Alors qu'on est loin de là, quand on est dans l'espérance chrétienne.
L'espérance chrétienne, c'est l'irruption de ce qu'on ne pouvait même pas imaginer.
Ouais, un peu comme les disciples qui ne s'y attendaient pas.
Hein, ils sont renversés.
Ils
sont bouleversés parce que ce qu'ils pouvaient espérer de plus grand, de plus beau, c'est encore plus grand que ça, ce qui est arrivé. Hein? Nos rêves les plus fous sont dépassés. L'espérance chrétienne, c'est l'irruption inattendue de Dieu, de la vie de Dieu, dans notre histoire, dans notre vie humaine. Hein? Ce n'est pas la futurologie, ce n'est pas la réalisation d'une prédiction d'avenir, ce n'est pas une prospective, c'est une nouveauté radical.
Ouais.
Et le texte de l'Apocalypse nous dit ça aussi.
Mm-hmm.
Il y aura un ciel nouveau. Hein?
Mm-hmm. Quand on écoute le texte de l'Apocalypse, là, j'entends peut-être certains dire, ben, c'est comme si on revenait à cette dimension eschatologique là, de l'espérance d'avant Vatican II. Hein?
Bien sûr qu'on reparle de l'eschatologie, bien sûr qu'on parle des fins ultimes, mais il me semble que c'est important de faire le détour pour leur redonner sens, pour les recontextualiser. Ce qu'il y avait quand on parlait d'eschatologie avant Vatican II n'était pas mauvais,
mais
nous avions peut-être oublié, ou en tout cas certains nous ont rappelé, donc ils y ont pensé, à cette dimension de solidarité dont nous ne sommes pas, on ne peut pas faire fi de ça.
Mm-hmm.
Donc ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une course par en avant pour passer par-dessus et puis se retrouver, pop, un peu comme par magie.
Mm-hmm, pour éviter certaines...
Ouais. Je pense que le mot magie peut-être peut nous éclairer. Hein? L'espérance, ce n'est pas une formule magique pour finalement être libéré soudainement de notre expérience humaine et de la souffrance qu'elle peut comporter. Il me semble que l'espérance, cette nouveauté qu'elle nous apporte, hein, elle se vit dans une rencontre avec quelqu'un.
Ah ouais.
Ça aussi, c'est particulier à l'espérance chrétienne.
À l'espérance chrétienne, si on compare à l'espérance dont vous parliez la semaine passée au quotidien, ou l'espérance religieuse en général, là, l'espérance chrétienne, quand on parle d'espérance chrétienne, on parle d'une rencontre avec quelqu'un.
Avec quelqu'un, et ce quelqu'un-là a visage de Jésus-Christ. Bien sûr, on peut parler du Père, on peut parler de l'Esprit, mais visage, visage où est-ce que nous nous reconnaissons, finalement, un visage humain, visage qui nous dit Dieu à travers un visage humain, c'est le visage de Jésus-Christ.
Oui, c'est d'ailleurs le propre, je dirais, ou la particularité là, du christianisme, que de reconnaître ce visage humain.
Oui.
Et donc, l'espérance est puisée à même ce visage humain.
Oui.
C'est ça.
C'est dans le visage.
Au fond, si je comprends bien, c'est de dire que même si... au moment où on espère le plus parce que ça fait mal, parce qu'on est dans la souffrance, eh bien, quand on regarde l'expérience de Jésus, on se dit que tout est possible là, aux yeux de Dieu et qu'on peut s'attendre à de l'inattendu, hein, un peu comme les disciples qui ne l'attendaient pas, mais qui ont reçu plus que ce qu'ils attendaient.
Oui, puis j'aurais le goût de vous répondre en contraste. Au moment où on souffre, et on ne sait même plus si on espère, parce qu'on a trop mal. Où est-ce qu'on ne sait même plus si on est capable de nous-mêmes prier ou nous placer en relation avec Dieu, simplement nous abandonner. Nous abandonner dans les mains du crucifié et que lui-même nous porte par son esprit à la vie.
Et peut-être dire, si vous me permettez d'ajouter une phrase de saint Paul que je paraphrase, mais que l'esprit prenne notre place là, et prie pour nous.
Abandonner dans ses mains, que lui nous porte à la vie. Un autre élément qu'on pourrait dire et qui est étonnant, et qui ne nous ramène pas seulement à l'après-mort, c'est que ce que nous sommes appelés à vivre comme humains, ce qui nous est promis, finalement, et ça c'est un peu étonnant, mais c'est vrai, ce n'est pas moi qui l'invente, je ne pourrais même pas l'imaginer, c'est que c'est la vie de Dieu qui nous est promis.
Oui.
Ce n'est pas seulement un environnement agréable, des relations harmonieuses, c'est de partager cette vie de Dieu. Hein? Enfant de Dieu, hein, nous le sommes. Il nous fait enfant de Dieu, enfant adoptif, bien sûr, mais il nous a fait à son image, nous sommes appelés à lui ressembler. Il y aurait long à dire là-dessus, mais, hein, mais il y a quelque chose. Donc, et il y a cette belle phrase de Saint Athanase qu'utilisait Jean-Paul II. Dieu s'est fait homme. On a parlé de l'incarnation tout à l'heure. Dieu s'est fait homme afin que l'homme, l'humain, l'homme et la femme, puissent devenir Dieu. Et là, quand j'ai raconté ça à mes étudiants, ils ont dit, mais oui, mais ça, ça ressemble au Nouvel Âge.
Oui.
Hein? Sois Dieu.
Oui,
hein?
Oui.
C'est
oui.
pas ça qui est question.
Non, non.
C'est pas ça qui est question. D'abord, on est dans un pluriel.
Oui.
Ce n'est pas moi qui va devenir Dieu.
Non.
Hein? Mais ensemble, lorsque nous vivons la solidarité, lorsque nous vivons la compassion, lorsque ensemble nous aimons, nous espérons, nous croyons, ensemble, nous ressemblons,
nous
approchons de l'image de Dieu.
Dieu, c'est ça.
Exactement.
Oui, 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 oui.
Et ça, c'est absolument fantastique. Saint Paul nous parle d'avoir peur à la vie de Dieu, à la gloire de Dieu. Hein? Non pas dans un esprit de domination, mais dans ce Dieu que nous avons à redécouvrir dans son visage d'amour. Non pas dans ce Dieu dominateur, tout-puissant, qui gère les choses par en haut et qui ordonne et boum, 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 tout est réglé. Non. Mais dans ce Dieu qui, justement, se fait pauvre, dans ce Dieu qui, à la limite, se fait impuissant, vous avez eu l'occasion d'en parler dans c'est une ça. Autre émission, je crois.
Oui, oui. Donc, comme nous, hein?
Oui.
À la manière humaine. Il nous reste, Hélène Champagne, quelques petites minutes, peut-être, pour qu'en résumé, vous puissiez nous parler de la personne qui chemine comme chrétien là, et qui découvre l'espérance.
Il me semble qu'il y a un élément à se rappeler. L'espérance nous garde un espace ouvert. Ou peut-être nous sommes appelés nous-mêmes à nous rendre attentifs à garder cet espace ouvert.
Oui.
Comme je vous ai dit, parfois on veut espérer puis on ne sait même pas si on y arrive. Laissons la porte ouverte.
Oui.
Un peu comme dans l'abandon, demandons à Dieu la confiance, demandons à Dieu l'espérance. Laissons la porte ouverte. Ne fermons pas la porte. Ouvrons la porte. Hein? Soyons disponibles. Rendons-nous disponibles pour le don de Dieu. Rendons-nous disponibles pour la nouveauté qui vient de Dieu.
Ah oui.
Ah non, c'est toujours pareil. Je connais ça. J'ai des... Non, non, non. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a du neuf qui peut arriver.
Exactement. Et ça parle beaucoup hein, d'espérance.
Oui. L'espérance, on l'a dit, c'est pas une prédiction, mais elle s'enracine dans notre histoire. Puis en même temps qu'elle s'enracine dans l'histoire, elle transfigure. Hein? Il y a une continuité, il y a une nouveauté, on le dit. Dans le christianisme, on tient souvent des paradoxes ensemble, on aime
oui,
ça.
Oui, hein?
Le chrétien est engagé dans l'histoire d'aujourd'hui, dans l'histoire de notre monde. On participe activement, on est invité à participer activement à ce que deviennent nos frères et sœurs.
Oui.
On est responsables les uns des autres.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est une phrase qui me revient souvent.
Oui, invité à la solidarité.
Ouais. Absolument. Mm-hmm. Et nous faire solidaires, non seulement des tristesses, mais des joies aussi.
Aussi, oui.
Hein? Mm-hmm. Et c'est ce que dit le texte du Concile Vatican II.
Oui.
Les joies et les tristesses.
Oui, oui, oui.
Les espoirs, les angoisses, les deux.
Les deux
côtés. Ce qu'il y a d'humain. Tout ce qu'il y a d'humain ne nous laisse pas indifférents. Et quand il y a apparence d'échec, quand il y a apparence d'échec de la justice, de la paix, de l'amour, quand on a l'impression que c'est un cul-de-sac, hein, les chrétiens continuent de mettre leur foi en Jésus-Christ. Même si parfois on se sent aveugle, même si on ne sait même pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire, on est un peu dans... On est aveugle.
Oui,
on est dans le brouillard.
Oui, oui.
Mais on continue de mettre notre foi en Jésus-Christ. Notre foi, dans le fond, quand on disait autrefois la croix, notre unique espérance, hein, sous l'apparence d'échec. On a comme les yeux empêchés de voir plus loin que la croix, parfois. Mais il y a un chemin qui est ouvert. La vie est ouverte. D'une certaine manière, la victoire sur la mort... Elle passe par le refus de la domination, le refus de la désolidarisation. Si Jésus était descendu de la croix,
oui.
Hein, puis il aurait réglé ça deux, trois coups de
De baguette magique.
Hein? Ouais. Ça nous aurait réglé peut-être bien des problèmes. Ouais. Mais en réalité, ça n'aurait rien réglé, au contraire.
Mais non, au contraire. Au contraire.
Parce que le chemin est ouvert dans notre expérience telle qu'elle est.
Exactement.
Comme humain, pas ailleurs. Mm-hmm. Mais c'est là que se dit la richesse, la grandeur, la dignité de notre vie humaine qui nous est donnée par Dieu. J'aurais deux petites citations de théologiens. On pourrait finir par une phrase biblique
aussi. Oui, oui, oui. Hein?
Il s'agit à la suite de Jésus, c'est une citation de Henri Motu, de ne pas donner prise en nous-mêmes à cette fiction d'un Dieu fort, tout-puissant, qui nous transporterait comme par magie hors de l'historicité de notre condition.
Ça parle bellement de notre fragilité, hein, de notre condition humaine.
Mm-hmm. Mais en même temps, j'aime beaucoup la phrase suivante de Paul de Clercq. Les chrétiens sont des humains qui, d'une certaine manière, ont leur mort derrière eux. Mm. Hein? Il l'explique un peu plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, mais ça veut dire qu'on a cet horizon, on a cette vision, ce regard obscur que la mort a été traversée, qu'il y a quelque chose d'autre, que les impasses, la misère, la pauvreté... Elle est traversée, et elle est traversée, entre autres, par l'amour, la solidarité, la compassion. Tantôt, on parlait de Dieu qui prend visage en Jésus-Christ. Mm-hmm. Et quand on est solidaires les uns des autres, ça me fascine, ça m'émerveille, mais Dieu prend visage en chacun de nous aussi. Hein? La personne qui nous aime, qui nous dit son soutien, sa solidarité, finalement, Dieu prend visage en elle. Hein? Et quand nous sommes les uns pour les autres ce visage de Dieu, est-ce que nous ne sommes pas, d'une certaine manière, le corps du Christ?
Ben écoutez, Hélène Champagne, c'est sur cette très belle citation et réflexion profonde que nous nous laissons. Je tiens à vous remercier d'avoir pris ce temps pour réfléchir avec nous sur l'espérance, hein, qui est quand même, on le disait en tout début d'émission, qui nous semble être parfois un paradoxe. Hein.
Oui.
Alors, ben merci pour cette réflexion profonde et remplie d'espérance. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux rat oublié, sous la neige je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière, au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai: le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé dans l'étable qui rit les nouveau-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée endimanchée de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté.
Je remercie bien chaleureusement Mme Hélène Champagne, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. Mme Champagne est laïque dominicaine. Elle contribue régulièrement à la revue L'Humanité et à Prions en Église. Elle est aussi l'auteur de Reconnaître la spiritualité des tout-petits, qui a été publié en 2003 chez Novalis et L'Humanité. Je remercie Marc Chevary pour son soutien technique. Merci à René Cossette à la lecture du texte de l'Apocalypse. Je remercie aussi Francine Robert qui coordonne cette série d'émissions « Croire d'hier à demain » réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio Ville-Marie. Je souhaite que votre espérance vous fasse chanter avec Jean Ferrat que c'est beau la vie. Passez une belle semaine. Au revoir.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.